Chapitre 7. Le calme avait succédé aux angoisses désespérées qui avaient bouleversé Ghislaine pendant les quelques jours où elle était restée sous le coup des exigences de Nicétas. Certes, ce calme ne ressemblait en rien à l'heureuse sérénité des années qui avaient précédé cet orage, mais elle respirait. Si tout danger n'était pas à jamais écarté, il était au moins ajourné. Était-il déraisonnable d'admettre qu'il pouvait retourner à l'étranger et y rester? Puisqu'il avait passé 11 ans sans revenir à Paris, c'est que rien ne l'y appelait et ne l'y retenait. Ce n'était pas sans intention qu'elle lui avait demandé de ne pas vendre les perles du collier à Paris. Et si tout d'abord il y avait là une raison de prudence, il y en avait une aussi d'espérance. Une fois à Londres, à Vienne ou à New York, il pouvait très bien ne pas penser à rentrer à Paris. Cependant, comme c'eût été folie de s'endormir dans cette espérance qui ne reposait sur rien de précis, elle voulut prendre quelques précautions contre un retour possible et une nouvelle attaque. Pour elle, il n'était que trop certain qu'elle ne pouvait rien, et comme elle avait été une marionnette entre ses mains, dont il jouait selon sa fantaisie, elle le serait toujours. Mais pour Claude, il en était autrement, et si, après avoir agi contre la mère, il trouvait de son intérêt de se tourner contre l'enfant, il fallait qu'à ce moment, celle-ci fût en sûreté. Pour cela, le mieux était de la mettre au couvent. S'il voulait tenter quelque chose, où la chercherait-il, quand les portes d'un couvent se seraient refermées sur elle, à Paris ou aux environs? Mais elle ne voulut pas prendre cette résolution sans avoir consulté son médecin qu'elle fit venir à Chambray pour qu'il examinât Claude de nouveau. Le médecin fut d'avis qu'à la rentrée d'octobre, elle pourrait travailler comme toutes les filles de son âge, mais que, pour le moment, il importait qu'elle passât les mois d'été à la campagne sans faire grand-chose. « Encore 3 mois de vie animale, dit-il en concluant, et je crois qu'à l'automne, elle sera en état de supporter la règle et le travail d'un internat. Mais à condition cependant que ce ne sera pas à Paris. Là-dessus, ma prescription est formelle. Sa bonne santé dans l'avenir dépend de la vie à la campagne. C'est une absurdité meurtrière de maintenir des internats à Paris, lycées ou couvents. Et il y a longtemps qu'on les aurait transportés aux champs, si dans toute maison d'éducation, on ne faisait point passer les convenances des directeurs et des professeurs avant l'intérêt des élèves. Ce n'était pas pour ne pas suivre les conseils de son médecin qu'elle les avait demandés. Il aurait ordonné le couvent que Claude eût tout de suite quitté Chambray, mais la prescription d'attendre jusqu'à l'automne était trop bien d'accord avec son secret dessein pour qu'elle n'en fût pas heureuse. Elle aurait sa fille pendant 3 mois encore. En 3 mois, il ne dépenserait pas 300 000 francs sans doute, et avant qu'il revînt à l'assaut, si, comme elle le pressentait, il devait y revenir, on aurait le temps de cacher Claude dans quelque petite ville des environs de Paris, assez bien pour qu'il ne pût pas la découvrir. Cependant, comme il était sage de s'entourer de toutes les précautions, même de celles qui paraissaient ne devoir pas servir, elle recommanda à Dagomer de faire bonne garde autour de Claude et de ne jamais la laisser sortir avec personne autre que lui et que sa femme. Quand elle irait chez Lady Capadoce, comme quand elle en reviendrait, elle devrait être accompagnée. Elle n'était plus une gamine qui peut s'en aller par les chemins. Cela, organisé de la sorte, il semblait que Ghislaine pouvait reprendre sa vie ordinaire et être tranquille. Et de fait, elle le fut pendant un certain temps, mais un jour, elle se trouva tout à coup menacée, précisément par où elle se croyait le plus en sûreté, c'est-à-dire du côté de son mari. Pendant l'été, ils vivaient à Chambray, mais cependant, sans que l'hôtel de la rue Monsieur fût complètement fermé. Le comte y venait tous les jours en allant à la chambre, Ghislaine l'accompagnait souvent, et jusqu'aux vacances parlementaires, ils y recevaient parfois des amis, notamment des étrangers, pour lesquels une excursion à Chambray n'eût pas été un agrément. C'était le moment où Ghislaine voyait ses parents d'Espagne à Paris, et le comte, les amis avec lesquels il s'était lié dans ses voyages. Au commencement de juillet, un dîner fut ainsi donné en l'honneur d'une infante d'Espagne qui était venue passer à Paris le mois du Grand Prix, et pour se rencontrer avec elle, les Dunières avaient choisi la fleur de leurs amis, l'hôtel avait pris son air de gala, et les serres de Chambray s'étaient vidées dans les appartements et dans le jardin de la rue Monsieur. Quand le comte revint de la chambre où il y avait une séance importante, il trouva Ghislaine déjà habillée et installée dans le grand salon, prête à recevoir ses invités. Ce soir-là, elle avait renoncé à ses habitudes de simplicité et portait une robe de crêpe de chine blanc brodée d'or qu'elle mettait pour la première fois. À quelques pas d'elle, le comte s'arrêta pour la regarder, pour l'admirer. « Comme cette robe te va bien, dit-il, elle est faite pour ta beauté brune. C'est une merveille d'harmonie. » Le premier coup d'œil avait été, comme toujours, pour l'admiration, mais le second fut pour la critique. « Comment, pas un bijou, dit-il, c'est trop de simplicité pour nos hôtes. »« Oh, en cette saison !» répondit-elle, surprise de cette observation, la première de ce genre qu'il se permit depuis 10 ans. « Aujourd'hui que nous recevons les enfants, il n'y a pas de saison. Je ne te demande pas de te charger de diamants, mais tu pourrais mettre ton collier de perles qui, sur tes épaules, éclairé par les reflets noirs de tes cheveux et l'or de la bordure de ton corsage, produira un effet superbe. » Elle restait interdite. « As-tu des raisons pour ne pas mettre ce collier ? » demanda-t-il en l'examinant. « Quelle raison ? » ?»« Eh bien alors, fais-moi ce plaisir. » C'est sérieusement que je te le demande, non seulement par égard pour nos invités, mais encore pour mon agrément. » Elle pensa à dire que le collier n'était pas en état, mais le comte prévint cette objection. « Il est en bon état, puisque March et Chabert ont dernièrement réparé le fermoir. » Toute résistance était impossible. « Je vais le mettre, » dit-elle. Elle monta à son cabinet de toilette, soumise à la fatalité. « C'est la punition qui commence, » se dit-elle en l'accrochant. « Où s'arrêtera-t-elle ? C'est mon premier mensonge, dans combien d'autres serais-je encore entraînée ?» Elle se regarda dans la psyché, mais son trouble la rendait incapable de voir si la fausseté des perles sautait aux yeux. Il lui semblait que, si l'on n'était pas prévenu, on pouvait les croire vrais, alors surtout qu'on ne les examinerait pas de très près. Seulement, ne se laissait-elle pas influencer par les éloges que le bijoutier s'était lui-même décernés, et ne les voyait-elle pas telles qu'elle voulait qu'elles fussent ? Il fallait redescendre, car les invités allaient arriver, mais il fallait aussi se donner une assurance qui lui permit de ne pas se troubler quand elle verrait les regards s'attacher, comme toujours, sur son collier qui ne manquait jamais son effet. Ordinairement, ses regards la gênaient plus qu'ils ne la flattaient. Que serait-ce ce soir-là ? En effet, chaque fois que, pendant le dîner et la soirée, elle sentait les yeux s'attacher sur elle un peu plus longtemps qu'il n'était naturel, croyait-elle. Elle s'imaginait qu'on était frappé par l'étrangeté de ses perles et qu'on se demandait d'où elles provenaient. Les hommes, pour la plupart, ne se connaissent guère en bijoux, mais combien de femmes en remontreraient au joaillier ? Elle ignorait si, parmi ses convives, il ne s'en trouverait pas une en état de deviner son mensonge. C'est dans leur amour-propre que tremblent les femmes qui ont la faiblesse de porter des bijoux faux. Elle, c'était dans son amour et dans son honneur. À un moment de la soirée, elle éprouva une émotion qui la paralysa. Une de ses cousines, une jeune Espagnole qui faisait son voyage de noces, porta la main sur le collier. « Oh, ma cousine, que je suis contente de voir votre collier! J'en avais bien entendu parler par maman, mais je n'imaginais pas qu'il fût si beau. « Laissez-moi le regarder de près. » Elle ne pouvait pas refuser. Heureusement, elle était jeune, la cousine, et elle ne devait pas avoir de fortes connaissances en joaillerie, étant sortie du couvent pour se marier. Et puis, comment soupçonnerait-elle que ce collier, dont on parlait tant, pouvait être faux ? C'était à travers son histoire et la tradition qu'on le regardait, non à travers la réalité. C'était là surtout qu'elle devait trouver une raison pour se rassurer et reprendre confiance. Cependant, quand la soirée se termina et que les derniers convives partirent, elle fut grandement soulagée. Enfin, elle était sauvée. Tout au moins l'était-elle pour cette fois, et après cette épreuve, si l'hiver prochain elle devait le mettre encore par ordre, elle serait moins inquiète. Montée dans sa chambre, elle le défit tout de suite pour le réintégrer dans l'écrin où elle espérait bien le tenir longtemps renfermé. Mais, au moment où elle allait ouvrir cet écrin, elle entendit le pas de son mari. Alors, instinctivement, comme si elle était en faute, elle posa le collier sur une table en malachite et le recouvrit du fichu de dentelle dans lequel elle s'était enveloppé les épaules en sortant du salon. « Vous vous déshabillez ? » dit-il. « Oui. » « Eh bien, je vais attendre, nous causerons tout à l'heure. Ne vous pressez pas, j'ai à lire ce paquet de lettres qu'on vient de me remettre. » Elle passa dans son cabinet, n'osant pas prendre le collier, qui d'ailleurs était bien caché, croyait-elle. Le comte s'assit auprès de la table sur laquelle était posée une grosse lampe en bronze et il ouvrit une de ses lettres. Mais comme il se trouvait en dehors du rayon de la lumière, il se leva et prit la lampe pour la rapprocher. En la reposant, une des trois griffes qui formaient le pied rencontra un coin du fichu et il se produisit un petit bruit sec comme celui d'une fracture. Qu'avait-il donc cassé ? Il enleva le fichu et trouva le collier étalé sur la malachite. Il avait écrasé deux perles. Son premier mouvement fut du dépit et du chagrin. « Quel maladroit je fais !» se dit-il. « Et comme Ghislaine va être désolée, son collier !» Mais il s'arrêta surpris. Si peu versé qu'il fût dans l'art de la joaillerie, il savait que les perles sont formées d'une matière nacrée, compacte, solide, résistante, qui ne s'écrase pas sous le pied d'une lampe, si lourde que soit cette lampe. Alors, qu'est-ce que cela voulait dire? Il resta un moment interdit, ne comprenant pas. Puis, ramassant les morceaux des perles, il les prit dans sa main, les examina. Mais il n'y vit rien de particulier. Et cependant, il y avait là quelque chose d'étrange et de mystérieux. Sa première pensée fut d'entrer dans le cabinet de toilette pour raconter cette aventure à Ghislaine. Mais il avait déjà fait deux pas quand il s'arrêta, revint à la table, égalisa les perles de façon à ce que le vide qu'il avait fait disparût et recouvrit le collier avec le fichu.